À Paris. Dans un instant, notre invité, l'avocat Robert Bourgi, qui publie ses mémoires « Ma vie en France-Afrique ». Mais d'abord, le rappel des grands titres de l'actualité. Nous sommes le lundi 30 septembre, à la une, le deuil national au Liban. 3 jours de deuil en hommage à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué vendredi dans des frappes israéliennes sur le QG du groupe armé chiite dans le sud de Beyrouth. 20 autres responsables du Hezbollah libanais ont péri dans cette frappe. Les bombardements se sont poursuivis ces dernières heures, notamment sur le centre même de la capitale libanaise et sur la plaine de l'Abeka. L'Arabie Saoudite appelle ce matin au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban. À noter la visite sur place à Beyrouth du nouveau ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui est arrivé hier soir avec dans son avion plus de 11 tonnes d'aide humanitaire. À la une également l'Autriche, l'extrême droite en tête des législatives d'hier. C'est une première. Le FPÖ obtient près de 29% des voix, 2 points de plus que les conservateurs, 8 de plus que les sociaux-démocrates. Quelles alliances pour gouverner? C'est ce qui va se négocier à présent. En France, le procès de l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, devenu RN, s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Le parti lui-même, sa présidente Marine Le Pen et 24 autres personnes, cadres, ex-eurodéputés ou assistants, sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen. La revue de la presse africaine avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une, ce lundi, les tirailleurs de Poutine.
C'est le titre d'une longue enquête à lire dans Jeune Afrique sur ces combattants africains intégrés aux troupes russes depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Camerounais, centrafricains ou ivoiriens, il serait plusieurs milliers à avoir été recrutés. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés là? Comment vivent-ils? Le site panafricain tente de répondre à toutes ces questions en retraçant notamment le parcours d'Alain, jeune centrafricain, l'année dernière à Bangui, accusé du vol d'une moto qu'il affirme avoir simplement empruntée pour travailler. Alain se retrouve détenu dans un commissariat de la capitale. Là, il reçoit la visite d'un homme blanc qu'il ne connaît pas. Celui-ci, qui s'avère être russe, lui propose son aide. Le détenu pourra sortir s'il accepte de s'engager dans sa société de gardiennage. On lui parle d'une formation de 3 mois pour devenir agent de sécurité. Celle-ci doit se dérouler en Russie. D'autres ex-détenus qui se croient alors chanceux le rejoignent. Puis tous s'envolent vers Dubaï pour une escale où d'autres subsahariens s'ajoutent au groupe. Alain estime que ce dernier atteint les 300 à 400 personnes lorsqu'il arrive à Moscou.
Et là, poursuit Jeune Afrique, on leur fait signer un contrat en russe auquel ils ne comprennent rien et ils se retrouvent incorporés dans les rangs de la milice Wagner.
Alain est ensuite envoyé en première ligne en Ukraine. Au bout de quelques mois, il réussit à s'enfuir et à trouver refuge en Lettonie. Le centrafricain décrit encore ses oreilles saignant à cause des détonations et des explosions. La vie dans un camp constamment bombardé, les journées et les nuits sans repos et les repas parmi les cadavres, relate Jeune Afrique. Tout semblait être un cauchemar, résume Alain. Il est donc parvenu à s'enfuir, échappant à son sort de chair à canon. D'autres soldats africains de Vladimir Poutine n'ont pas eu cette chance. Alors combien sont-ils ces tirailleurs de Poutine? Plusieurs milliers donc, d'après les services de renseignement ukrainiens. Parmi eux, précise encore Jeune Afrique, de nombreux centrafricains comme Alain, supervisés par le ministre centrafricain de l'élevage et de la santé animale, Hassan Bouba, précieux allié de Wagner.
À la une également ce matin, la guerre d'Israël au Liban et l'élimination de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, vu d'Afrique.
Officiellement, les réactions sont encore timides sur le continent, pointe le quotidien Le Pays ou Burkina Faso. Pour l'instant, seule l'Afrique du Sud, fidèle à sa position contre Israël, qu'elle poursuit devant les juridictions internationales pour génocide contre le peuple palestinien. Seule l'Afrique du Sud, donc, a donné de la voix. D'autres réactions devraient suivre sur le continent qui, on le sait, est traditionnellement acquis à la cause de la lutte palestinienne. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Point n'est besoin d'être rompu aux questions internationales pour deviner que l'on s'achemine vers une conflagration au Proche-Orient, estime Le Pays, avec des conséquences qui pourraient aller largement au-delà de cette partie tourmentée du monde. Les signes précurseurs sont en tout cas déjà largement perceptibles. Ni les 150 000 missiles et roquettes dont dispose le Hezbollah, ni les dizaines de milliers de ses combattants n'ont disparu du fait de l'élimination de Nasrallah. Et il faut craindre que partout dans le monde, et particulièrement sur le continent africain, l'on s'en prenne aux intérêts des États-Unis, qui sont les alliés indéfectibles de l'État hébreu et qui ont salué l'élimination du chef du Hezbollah comme une mesure de justice.
Le quotidien aujourd'hui, toujours à Ouaga, s'interroge.
Benjamin Netanyahou et le Likoud jubilent, leur cote remonte, mais ce nouvel ordre qu'ils veulent imposer à n'importe quel prix est-il viable? La volonté d'Israël de redessiner la géopolitique au Proche-Orient, advienne que pourra, but pour l'instant, but pourtant sur la centralité de la question palestinienne. Le Hezbollah et même le bourbier de Gaza prendront peut-être fin, mais la paix est-elle pour autant revenue dans cette région? Quid des conséquences sur le Moyen-Orient et même sur d'autres parties du monde? Sans des solutions politiques à la question palestinienne, ne faut-il pas s'attendre à d'autres mouvements, s'interroge encore aujourd'hui, même après une éventuelle disparition du Hamas et du Hezbollah.
Merci Frédéric, à tout à l'heure, 9h15, pour un coup d'œil à la presse internationale de ce lundi. Il est 8h49 à Paris. Notre grand invité Afrique du jour ce matin, c'est l'avocat Robert Bourgi, avocat emblématique de la France-Afrique, qui publie ses mémoires aujourd'hui avec l'aide du journaliste Frédéric Lejal sous le titre suivant « Ils savent que je sais tout, ma vie en Centrafrique ». Dans cet ouvrage, il revient sur quelques énigmes historiques, il apporte son témoignage. Parmi ces énigmes, eh bien celle sur l'assassinat de Thomas Sankara. Qui a commandité cet assassinat en 87? Qui a donné l'ordre de bombarder le camp militaire français de Bouaké en 2004. Quel rôle éventuel a joué Pascaline Bongo dans le putsch qui a renversé son frère il y a un an au Gabon? Robert Bourgi, donc, invité ce matin de Christophe Boisbouvier.
Robert Bourgi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Dans votre livre, vous racontez votre longue amitié avec Laurent Gbagbo. En novembre 2004, deux avions ivoiriens bombardent une caserne française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Puis les deux pilotes biélorusses essaient d'évacuer par le Togo, où ils sont interceptés. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il refusé que Nassim Bey Yadema lui livre ces deux pilotes pour la justice française?
Vraiment, j'ignore tout de cet épisode, mais je me suis retrouvé avec Laurent un soir au moment de ce tragique événement. Et Dominique de Villepin m'avait dit « Essayez de savoir s'il y a du Laurent Gbagbo dans cette affaire. » Et je lui ai dit « Laurent, vraiment, es-tu mêlé de près ou de loin ?» Il dit « Je t'assure, Robert, dis à Dominique de ma part que je ne suis en rien mêlé à cette affaire. » Laissant entendre à un moment donné de la conversation, mais il n'est pas impossible que l'entourage de Simone soit mêlé. Cette phrase, il me l'a prononcée.
Sous-entendu, les extrémistes de mon camp.
Il a dit ça, je ne sais pas à qui il faisait allusion. Est-ce que c'est l'officier CKCK, comme on l'appelait? Je ne sais pas.
Alors pour vous, cette époque entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué parce que vous êtes ami à la fois avec Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui soutient la rébellion pro-Ouattara. Blaise Compaoré, vous l'avez rencontré dès 1986, du vivant de Thomas Sankara. Pourquoi, à votre avis, a-t-il décidé d'éliminer son compagnon d'armes en 1987?
Je ne sais pas quels sont les sentiments qui ont animé Blaise, je les ignore, mais ce que je puis vous dire, Monsieur Focard, tout puissant conseiller Afrique de Monsieur Chirac, m'avait dit, il me savait proche de Thomas, faites savoir à Thomas d'être très prudent. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, doyen? Il me dit, il est en danger. Et ça peut venir du plus près. À ce moment-là, il y a eu un deuil dans ma famille et Thomas l'ayant appris, m'appelle et me présente ses condoléances. Je lui dis, Thomas, ça tombe bien. Le vieux m'a dit qu'il fallait que tu sois très prudent. Le coup peut venir du plus proche de toi. Il me dit, mais remercie le vieux de ma part, c'était un mot de code pour Focard. Je vais être prudent. Il est arrivé, ce que vous savez.
Quel rôle a joué Félix Houphouët-Boigny dans cette affaire?
Je pense qu'il a été très actif, par la grâce, si je puis dire, de Chantal.
L'épouse de Blaise qui était ivoirienne.
Exactement. Fille d'un administrateur des colonies, qui était très proche du président Houphouët-Boigny. Et ce que n'a pas supporté Houphouët-Boigny, c'est que lorsque Thomas allait le voir, il avait toujours le pétard et il avait refusé de venir en tenue civile. Le courant ne passait pas entre eux.
Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire est dans le complot?
J'en suis même certain.
Autre pays que vous connaissez bien, c'est le Gabon. Dans votre livre, Robert Bourgi, vous dites que le vrai dauphin qui était en capacité de succéder à Omar Bongo en 2009, ce n'était pas son fils, Ali, mais sa fille, Pascaline. Est-ce que vous pensez que celle-ci a approuvé l'année dernière l'élimination politique de son frère, Ali Bongo?
Je n'ai plus de contact avec Pascaline depuis des années. Donc je ne peux pas donner une réponse à cela. Mais je puis vous dire, connaissant Brice,
l'actuel président du Gabon.
L'actuel président. Je connais Brice depuis 25 ans. Et c'est un homme d'autorité, un homme de caractère. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu lui susurrer à l'oreille qu'il fallait faire un coup d'État.
Depuis son arrivée au pouvoir, vous avez revu Brice Clotaire-Oleguin-Guema. Est-ce que vous lui avez prodigué des conseils?
Nous avons passé, lui et moi, un peu plus de 2 heures ensemble à Dakar. Il m'a dit, comment vois-tu les choses, grand frère? Je lui ai dit, écoute, fais souffler un air de démocratie dans ton pays, comme tu le fais, et essaye de te dégager du reproche qu'on pourrait te faire que c'est la famille Bongo qui continue. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et il ne m'étonnerait pas qu'il soit candidat à la présidentielle s'il y en a une.
L'année prochaine,
ou peut-être même avant.
Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, vous l'avez évidemment connu quand il était le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, il y a 20 ans. Quel souvenir vous en avez gardé?
C'est un homme qui a de l'autorité, qui a un certain charisme, et c'est un têtu.
Dans le bon sens du terme.
Absolument. Et j'espère qu'il aura son mot à dire pour ce qui concerne la politique africaine de la France. Parce que la France a besoin d'un homme qui porte haut sa voix dans les relations avec l'Afrique. Et surtout ne pas faire preuve d'arrogance.
C'est une critique en creux du président français ?
Non, pas du tout. Je fais remonter les reproches que font les Africains à notre pays.
Robert Bourgi, merci.
L'avocat Robert Bourgi avec Christophe Boisbouvier. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, c'est le titre donc de ses mémoires parus chez Max Milo. 9h05, voici Maman dans RFI Matin. Maman au Gondwana, l'alternance démocratique coince d'abord sur les mots.
Oui, comme dit le dicton, on ne peut pas être après avoir été. Ou bien dans sa version gondouanaise, tu ne peux pas vivre ton temps et vivre celui de ton voisin. Un dicton qui a cours sous toutes les latitudes et dans tous les domaines, sauf en politique ici au Gondwana. Bah oui, au Gondwana, ce dicton devient le séjour d'un crocodile dans une piscine ne le transformera jamais en maillot de bain. Il sera toujours un crocodile. C'est pour ça qu'en très très démocratique république, mon ami, quand tu as été président ou ministre une fois dans ta vie, ne serait-ce que quelques heures, eh ben, tu seras toujours monsieur le ministre ou bien monsieur le président jusqu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'es plus ministre qu'on va plus t'appeler ministre. Même si tu as été président de l'association des ressortissants de ton village, tu seras monsieur le président pour tout le monde et pour toujours. Ce qui est valable pour les honorables, eh ben, il l'est aussi pour leurs entités collectives. Tu sais, ce gros paquebot qu'on appelle la majorité présidentielle. Écoute bien comment les commentateurs en parlent. Quand le temps est beau et le soleil au zénith, bah c'est la majorité présidentielle par-ci, la majorité parlementaire par-là, bref, la majorité au pouvoir, quoi. Puis les élections arrivent et là, patatras, catastrophe, la majorité est battue. C'est-à-dire que la majorité n'est plus la majorité. Elle va devenir l'opposition, quoi. C'est ce que tu crois, mon ami. N'oublie pas qu'on est en très très démocratique république. La majorité ne sera jamais l'opposition. La majorité sera toujours la majorité. Désormais, on l'appellera l'ancienne majorité présidentielle ou bien l'ex-majorité parlementaire ou très souvent la majorité sortante. Bah oui, il n'y a que le qualificatif qui change. Mais elle reste quand même majorité, comme le ministre reste ministre, même s'il ne l'est plus. Et surtout, ne l'appelle jamais la nouvelle opposition, hein, t'as compris? Et fais gaffe, c'est un kit complet que tu dois garder à l'esprit. Si la majorité restera toujours la majorité, sache que l'opposition ne sera jamais la majorité, même si elle a gagné les élections. Eh oui, tu continueras à l'appeler l'ancienne opposition, ou même l'opposition d'hier, l'opposition sortante, mais jamais la nouvelle majorité. Eh oui, le terme majorité revient à vie au parti de président fondateur. Majorité à vie parce que on ne sait jamais. Ils peuvent revenir au pouvoir aux prochaines élections qu'ils vont gagner. Choco, choco, hein. Attends, n'oublie pas la sagesse gondouanaise qui dit qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Bah oui, l'ancienne majorité présidentielle, là, tu n'as connu qu'elle au pouvoir. Tu l'as fréquentée assidûment, elle t'a gâté au point où toi-même, tu te sentais appartenir à la majorité présidentielle même si tu es supposé être un commentateur neutre. Donc, tu ne peux pas te résoudre à te dire que ça y est, c'est fini, la majorité présidentielle est désormais dans l'opposition et que les nouveaux boss, la nouvelle majorité quoi, eh ben c'est les gars de l'opposition que tu méprisais hier. À demain.
À demain Maman et bonne journée à vous. RFI Matin à suivre le journal, dans deux minutes on sera avec Léa Boutin-Rivière. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Chen Kouti et Damien Marley. Rema et Chani Poppy.
RFI Musique.
Vous m'en direz des nouvelles.
Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie.
Du lundi au vendredi, Culture et Découverte s'invite en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur des trémus.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée.
Bas les pattes.
Un podcast RFI.
Penaï Traoré.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans les 10 épisodes de la saison 2 de Bas les pattes.
Bas les pattes, à écouter sur les sites et applications de RFI et toutes les plateformes de podcast.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
quand un enfant a peur de la nouveauté, de la séparation ou de l'avenir, comment le rassurer ?
Demain,
le couple à l'épreuve des désaccords quotidiens, quels sont les reproches qui polluent votre vie à deux ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.